Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 5 juillet 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Tout d'abord les titres. Un exemple pour la région, les États-Unis saluent l'annonce du président sénégalais Macky Sall de ne pas briguer en troisième mandat. Un Tunisien a été tué dans des heurts avec des migrants africains dans la ville de Sfax, crainte d'une escalade des violences. En Éthiopie, forte augmentation de la faim au Tigré et l'ONU craint que la situation n'empire. La Russie ne voit aucune raison de prolonger l'accord sur les céréales ukrainiennes. L'opération militaire israélienne à Jenin est terminée, annonce l'armée. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les États-Unis ont salué mardi l'annonce du président sénégalais Macky Sall qu'il ne briguera pas en troisième mandat en février 2024. Eric Manirakidza.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a déclaré que cette décision donne l'exemple pour la région et est contraire à ceux qui cherchent à éroder le respect des principes démocratiques. Il a souligné que les États-Unis pensent que des élections libres et justes ainsi que des transitions de pouvoir contribuent à renforcer les institutions et à créer des pays plus stables et prospères. Les États-Unis ont exprimé leur fierté d'appuyer les institutions électorales du Sénégal et ont promis de continuer à travailler en collaboration avec Dakar pour soutenir l'engagement du peuple sénégalais en faveur de la démocratie. Au cours des derniers mois, les opposants de Macky Sall l'avaient accusé de vouloir briguer un troisième mandat, ce qui serait illégal selon eux. Le flou entretenu par le président Sall quant à ses intentions, ainsi que la condamnation à 2 ans de prison de l'un de ses principaux opposants, Ousmane Sonko, ont contribué à une situation tendue dans le pays. Le Sénégal est considéré comme un partenaire clé des États-Unis qui ont récemment manifesté leur volonté de renforcer leurs liens avec les pays africains. En décembre 2022, le président Joe Biden avait organisé un sommet à Washington réunissant une cinquantaine de dirigeants africains, dont le président Macky Sall.
En Tunisie, des appels à la vengeance ont fait craindre mardi une escalade des violences dans un contexte de vives tensions suscitées par l'immigration clandestine. Et ce après que dans la ville de Sfax, un Tunisien a été tué mortellement poignardé dans des heurts avec des migrants africains tard lundi. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par un député de Sfax a suscité un torrent de réactions, souvent au relents racistes, appelant à l'expulsion des migrants africains de la deuxième ville de Tunisie. Selon le porte-parole du parquet de Sfax, 3 migrants soupçonnés d'implication dans ce meurtre et qui seraient de nationalité camerounaise, selon les informations préliminaires, ont été arrêtés. Les violences se sont multipliées en Tunisie après un discours le 21 février du président Kais Saied, pourfendant l'immigration clandestine et la présentant comme une menace démographique pour son pays. En Éthiopie, le nombre de personnes souffrant de malnutrition sévère au Tigré, région du Nord dévastée par la guerre, a augmenté et la situation devrait empirer selon l'ONU. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Dans son rapport au Chad, l'agence humanitaire de l'ONU estime que 8,8 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire dans le nord de l'Éthiopie. Ce chiffre ne prend pas en compte les millions d'autres affectés par la sécheresse dans le sud et le sud-est. En avril 2023, par rapport à avril 2022, les admissions pour malnutrition sévère au Tigré ont augmenté de 196% selon le rapport. Dans tout le pays, OCHA note une hausse de 15% des admissions pour malnutrition aiguë entre janvier et avril par rapport à la même période en 2022. Au Tigré, l'agence de l'ONU dit craindre une dégradation de l'insécurité alimentaire après la suspension des distributions de nourriture à cause d'importants détournements de l'aide alimentaire humanitaire. Le programme alimentaire mondial et USAID, l'agence américaine de développement, ont suspendu en juin leur aide alimentaire à l'Éthiopie, estimant qu'une large part de la nourriture était détournée. La pause temporaire de l'aide alimentaire au Tigré impacte négativement des taux de malnutrition déjà élevés, déplore OCHA. D'après l'agence onusienne, 20 millions de personnes en Éthiopie dépendent de l'aide alimentaire.
Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a promis hier que les élections déjà repoussées et dorénavant prévues l'an prochain se tiendront comme prévu et qu'il allait concourir à la présidentielle. Le plus jeune pays du monde est allé depuis son indépendance en 2011 de crise en crise et ne tient ensemble que grâce à un fragile gouvernement d'unité nationale créé après un accord de paix entre M. Kiir et le vice-président Riek Machar.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a appelé hier, jour de la fête nationale américaine, à mettre fin à l'épidémie de violence par arme à feu, un an, jour pour jour, après une fusillade survenue lors d'un défilé et au lendemain de deux nouvelles tueries. Il a encore exhorté les républicains au Congrès à travailler à des réformes de bon sens. Le point avec Nanit Talani.
Alors que notre nation célèbre le jour de son indépendance, nous prions pour que notre population soit libérée de la violence par arme à feu, a déclaré Joe Biden. Saluons la récente mise en place d'une interdiction des fusils d'assaut et des chargeurs à haute capacité dans l'État de l'Illinois, Joe Biden a appelé à en faire de même à travers le pays et à aller plus loin en mettant notamment fin à l'impunité des fabricants d'armes ou encore en instaurant un contrôle universel des antécédents des acheteurs. L'an passé, un homme avait ouvert le feu lors du défilé du 4 juillet près de Chicago dans l'Illinois, faisant 7 morts et des dizaines de blessés, transformant ce jour de fierté patriotique en tragédie, a rappelé M. Biden. Lundi soir, une fusillade à Philadelphie en Pennsylvanie a fait au moins 4 morts et 2 enfants blessés, selon la police, qui a annoncé avoir arrêté l'auteur présumé. Une cinquième personne a également été retrouvée morte. Le même jour, au Texas, 3 personnes ont été tuées par arme à feu et 8 autres blessées lors d'une fête. Quelques jours auparavant, 2 personnes ont été abattues et 28 autres blessées par des tirs durant une fête de quartier à Baltimore, dans le Maryland. Face à cette vague de tueries, le président démocrate a encore plaidé en faveur d'une réponse forte afin d'endiguer cette épidémie de violence par arme à feu. Un appel qui a toutefois peu de chances d'aboutir, car les républicains qui contrôlent la Chambre des représentants sont farouchement opposés à de telles initiatives.
La Russie affirme ne voir aucune raison de prolonger l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes qui expire ce mois-ci. Moscou se plaint depuis des mois d'entraves à ses propres livraisons de produits agricoles. Le point avec Abdourahman Dia.
Pour le ministère russe des Affaires étrangères, il est évident qu'il n'y a aucune raison de poursuivre l'accord qui expire le 17 juillet. Moscou se plaint notamment que son secteur agricole, l'un des plus grands producteurs au monde, soit impacté par les sanctions adoptées par les Occidentaux qui bloquent les exportations agricoles russes. La Russie accuse aussi l'Ukraine d'avoir fait exploser début juin un important pipeline reliant la ville russe de Togliatti au port ukrainien d'Odessa qui servait pour l'exportation d'ammoniac et d'engrais. Selon Moscou, les pays les plus pauvres n'ont reçu que 2,6% du fret agricole envoyé depuis l'Ukraine, contre 81% vers des pays à revenus élevés et intermédiaires supérieurs. L'Ukraine accuse de son côté la Russie d'avoir arrêté l'enregistrement des navires ukrainiens depuis le 26 juin, provoquant le blocage de la mise en œuvre de l'accord. La Russie menace régulièrement de se retirer de cet accord sur les céréales ukrainiennes, conclu en juillet 2022 avec le parrainage des Nations Unies et de la Turquie.
L'opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée, dans laquelle 12 Palestiniens et un soldat israélien ont été tués, est terminée, a annoncé mercredi l'armée peu après avoir mené des frappes aériennes sur Gaza en réponse à des tirs de roquettes. Les militaires israéliens avaient commencé à se retirer mardi soir, a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'armée. Cette opération militaire, la plus importante depuis plusieurs années en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, avait été lancée lundi. Des centaines de soldats ont été mobilisés, ainsi que des drones et des bulldozers de l'armée. La Minute Echo, Nanit Talani.
L'Ouganda affirme être à la recherche de nouveaux financements pour sa future raffinerie de pétrole brut après l'échec des négociations avec un consortium comprenant une unité de la société américaine General Electric en raison de son incapacité à mobiliser des financements à temps, a déclaré son ministère de l'Énergie et des Mines. La raffinerie de 60 000 barils par jour devrait coûter jusqu'à 4 milliards de dollars et aider Kampala à traiter ses réserves de brut qu'il espère commencer à produire en 2025. Ikongwe Mine, la seule exploitation minière de minerais de fer du Botswana détenue par une société indienne, a arrêté sa production en raison de la chute des prix à l'exportation du minerai, a déclaré la société. Les prix du minerai de fer sur le marché mondial sont tombés à environ 100 dollars la tonne en raison de la faible demande d'acier, alors que les coûts logistiques sont élevés. Terminons par l'Égypte qui a lancé un programme de 1,8 milliard de dollars pour forer des puits d'exploration de gaz naturel dans la mer Méditerranée et le delta du Nil, a déclaré mardi le ministre du Pétrole, Tarek El Moula, en marge d'un séminaire de l'OPEP à Vienne en Autriche. Le Caire réalise ce programme en coopération avec Eni, Chevron, Exxon, Shell et BP. L'objectif est de forer 35 puits d'exploration d'ici 2 ans, 21 au cours de l'exercice 2023-2024 en cours et 14 l'an prochain.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Maroc fera face à l'Égypte en finale de la CAN des moins de 23 ans.
Oui, en demi-finale hier mardi, l'Égypte a disposé de la Guinée 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Mohamed Chiata très tôt dès la 8e minute de jeu. Dans la seconde demi-finale, le Maroc et le Mali se sont départagés au tir au but. Après un score nul d'un but partout, le pays hôte, le Maroc, s'est imposé par 4 tirs réussis contre 3 pour les Aiglons. En finale ce samedi, les Égyptiens tenteront de conserver leur trophée devant les Marocains. Bien avant vendredi, le Mali et la Guinée se disputeront la 3e place de cette CAN des moins de 23 ans. Les deux finalistes arrachent du même coup leur ticket pour les prochains Jeux Olympiques Paris 2024.
Steven Gerrard rejoint le championnat saoudien.
L'ancien capitaine emblématique de Liverpool a été officialisé comme nouvel entraîneur principal d'Al Ittifaq. Le technicien anglais de 43 ans était sans club depuis son limogeage par Aston Villa en octobre dernier. Al Ittifaq a terminé 7e sur 16 clubs de la Saudi Pro League la saison dernière. Depuis qu'il a pris sa retraite après une brillante carrière de joueur, Steven Gerrard a connu du succès lors de son mandat à la tête des Glasgow Rangers, où il a remporté le seul titre de champion du club au cours des 12 dernières années, en 2020-2021. Il rejoint en Arabie Saoudite d'autres managers de renom comme le Portugais Nuno Espírito Santo, ancien coach de Tottenham, sacré champion avec Al Ittihad, ou son compatriote José Jesus, ex-coach du Benfica, de retour à Al Hilal.
Tennis, Jabeur passe le premier tour de Wimbledon.
La joueuse tunisienne a disposé sans trembler de la polonaise Magdalena Fresh en 2-7, 6-3, 6-3 mardi au premier tour du tournoi de Wimbledon dont elle avait été la finaliste malheureuse l'an dernier. Hans Jabeur, intraitable sur son service, s'est détaché à 6-3, 3-0 avant de voir son adversaire concrétiser sa toute première et seule balle de break du match pour revenir à hauteur. Mais la 6e joueuse mondiale a réussi à s'emparer à nouveau de la mise en jeu adverse alors que le score était de 4-3 en sa faveur pour conclure sa première balle de match en 1h18. De son côté, la Bélarusse Arina Zabalenka, tête de série numéro 2, n'a eu besoin que d'un peu plus d'une heure de jeu pour venir à bout de la Hongroise Pana Udvardi, 6-3, 6-1. Au prochain tour, Zabalenka pourrait retrouver la Française Varvara Gracheva ou l'Italienne Camila Giorgi.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Soulagement et même fierté, dominé hier au Sénégal, au lendemain de la décision du président Macky Sall de renoncer en troisième mandat, décrispant un climat politique très tendu. L'opposition a toutefois nuancé ce concert de louanges, soulignant le rôle de toutes les vies sacrifiées dans des manifestations pour la défense de la démocratie et réclamant désormais des élections inclusives. Un reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
La question du troisième mandat a longtemps cristallisé les tensions politiques et sociales et la décision de Macky Sall d'y renoncer est un geste fort et respectable. C'est l'avis de David Diédou, un prestataire de services âgé d'une vingtaine d'années.
Bon, je pense que c'est juste une situation d'apaisement parce qu'on en a vraiment besoin vu les émeutes qui se sont passées précédemment. Je pense que le pays a besoin de paix, le pays a besoin de stabilité. Et dans cette optique, bon, personnellement, je le félicite pour cet acte de démocratie qu'il a eu à poser envers le pays, en fait.
Pour Fode Diawara, âgé de 42 ans et mécanicien de profession, le geste mérite le respect, mais pas de félicitations particulières, car c'est juste le respect de la parole donnée.
Il l'avait dit, il l'a fait, c'est terminé, et c'est ce que je retiens. Je pense que son acte va ramener la paix et une certaine cohésion sociale. Cela est évident, assujetti au traitement qui sera réservé à l'opposant Ousmane Sonko, car s'il est arrêté, le pays pourrait de nouveau connaître des troubles, mais l'essentiel à retenir est la position de Macky Sall, qui, il faut l'avouer, a surpris énormément de monde, y compris ceux de son camp.
Son avis est partagé par Mbarik Sen, un chauffeur de taxi âgé de 36 ans.
Ce désistement de Macky est une vraie surprise. C'est inattendu, car tout le monde s'attendait à ce qu'il se déclare candidat, mais il ne l'a pas fait. Et honnêtement, je pense qu'il le fait pour avoir les coudées franches et empêcher Ousmane Sonko d'être candidat aussi. Mais il doit savoir que les choses vont se calmer s'il laisse Ousmane Sonko tranquille. Dans le cas contraire, les malheureux événements risquent de se reproduire.
Des événements que le président Macky Sall a fermement condamnés hier avant de promettre des poursuites contre les auteurs et les commanditaires d'actes qu'il qualifie d'insurrectionnels. Un passage de son discours qui fait craindre à beaucoup une arrestation de Ousmane Sonko et une nouvelle vague de violence. Seydina Bagui pour VOA Afrique, Dakar.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la décision du président sénégalais Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat. Une annonce qui a suscité un soulagement au Sénégal et qui met fin à des mois de suspense à un peu plus de 6 mois de la présidentielle. Cependant, des questions demeurent sur la candidature du principal opposant Ousmane Sonko, condamné dans 2 affaires judiciaires, ainsi que sur le porte-étendard de la majorité présidentielle. La non-candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024 permettra-t-elle d'aller vers des élections crédibles et apaisées? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel, en rediffusion samedi et dimanche.
Lors du sommet de Paris qui a réuni la semaine dernière une 20aine de dirigeants africains, le premier ministre chinois et le président brésilien ont soutenu la nécessité de réformer les institutions financières mondiales telles que la Banque mondiale et le FMI en vue de les rendre plus efficaces et plus équitables. Le président français Emmanuel Macron, hôte de ce forum, a parlé de consensus complet. Quels pourraient être les avantages pour les pays africains? Eric Manirakidza a joint à Dakar Ibrahima Aïdara, directeur exécutif d'OSIWA, l'Open Society Initiative for West Africa.
Je pense que c'est vraiment véritablement la voie à suivre. Ouais, bon, on ne peut pas le Kenya et la Tanzanie ne peuvent pas commercer entre eux avec une monnaie étrangère. Donc je pense que pour moi, c'est la voie à suivre, et d'ailleurs pour tous les pays africains, si on veut maximiser les bénéfices même de l'accord commercial continental. Ça ne fait pas de sens, ça ne fait qu'accroître le coût du commerce entre nous et nous rendre encore moins concurrentiels par rapport au reste du monde.
Dans ce sommet, le président français notamment a dit qu'il y a eu un consensus complet pour réformer les institutions financières mondiales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international en vue de les rendre plus efficaces, plus équitables et mieux adaptées au monde d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée?
Moi, je pense que c'est une très bonne idée, quoique je ne crois pas tellement à sa réalisation. Depuis l'après-guerre, donc ces institutions sont là avec comme objectif de soutenir le développement dans les pays qui en ont besoin. Malheureusement, pour ce qui nous concerne en Afrique, très peu de pays, pour ne pas dire aucun pays, n'a pu se développer avec l'appui de ces institutions de Bretton Woods. Et on sait que les rapports avec ces institutions-là, les types de financement, les modalités, les conditionnalités, tout ça là n'est pas nécessairement favorable à la croissance soutenable et inclusive dont nous réclamons de tous nos voeux. Donc je pense que réformer tes institutions, d'abord pour plus d'efficacité, ça c'est un grand point, un gros problème, pour plus d'efficacité, parce que si on retrace leur intervention dans le continent, très peu de pays ou aucun pays n'a encore émergé avec l'appui de ces trucs. Donc il y a une question d'efficacité qui se pose. Réformer ces institutions pour plus d'équité est aussi un point sur lequel je pense que ça mérite d'être posé et d'en débattre. Donc moi je pense que c'est une nécessité pour le continent. Maintenant, je doute de sa réalisation parce que de toute façon, c'est des questions de rapport de force et je ne suis pas sûr que les grands pays vont lâcher pour, disons, avoir cet équilibre-là économique qu'on est en train d'annoncer dans les discours.
Quel type de réforme serait-elle utile à l'Afrique, aux pays africains?
D'abord, il faut avoir des mécanismes où on peut accéder à des financements structurants qui soient plus accessible et à moindre coût. Aussi longtemps qu'on n'a pas ce mécanisme-là qui nous impose avec de longues procédures, avec des coûts élevés, mais aussi avec des conditionnalités qui ne sont pas adaptées à nos économies, ça ne peut que déstructurer nos économies et au finish, on va se maintenir structurellement dans notre cycle de la pauvreté et de l'endettement.
Ibrahima Aïdara, joint à Dakar, il est directeur exécutif d'OSIWA, l'Open Society Initiative for West Africa, et il répondait aux questions d'Eric Manira-Kidza.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Maintenant, protection de l'enfance en Côte d'Ivoire. L'Association des volontaires pour le service international a organisé une journée de sensibilisation dans le village de Nakaha, à environ 25 kilomètres de Korogo, dans le nord du pays. L'objectif était de sensibiliser les femmes de ce village sur le mariage forcé, les maltraitances et autres types d'abus subis par les enfants. Un reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
Non-respect des droits des enfants, pratique du mariage forcé, des enfants victimes de maltraitance et bien d'autres abus. Qu'en pense le citoyen lambda?
Moi, je suis pas d'accord pour ça parce que arranger un mariage là, arriver là-bas, ça peut poser des problèmes, tout ça.
Je pense que ne pas prendre quelqu'un, venir proposer ou bien forcer quelqu'un à marier une personne sans son consentement.
Pour ça, bon, je ne serais pas d'avis.
c'est toujours risqué.
Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à cela. Ce sera la pire des choses qu'on puisse faire à quelqu'un.
En cas de violation ou d'atteinte ou de maltraitance, quels sont les recours qui s'offrent à elle?
Je dirais plutôt que c'est vrai que le combat n'est pas encore gagné, mais nous sommes sur la bonne voie.
Et c'est pour continuer le travail mené par le gouvernement ivoirien que l'Association des volontaires pour le service international a pris le relais sur le terrain auprès des communautés villageoises de Nakaa, non loin de Korogou. Franck Fieni, coordonnateur régional de l'ONG, explique.
Si tu mets ton enfant à l'école, et puis l'enfant est en train de réussir à l'école, et puis on vient, on l'enlève à l'école, on dit non, va te marier avec un vieux. Est-ce que c'est bon? Est-ce que si tu prends ton enfant, il va dans une autre école, tu donnes à quelqu'un d'autre, et puis on lui donne pas à manger pendant 3 ou 4 jours, est-ce que c'est bon? Si les mamans font ça, elles apprennent que quelqu'un fait ça aussi, elles doivent parler, elles doivent dénoncer, elles doivent dire que c'est pas bon.
Et les femmes disent avoir compris le message. Yeo Wanja est leur porte-parole.
Tout ce que nous on a compris ici et puis voir aussi, nous allons dire aux parents de ne pas faire mariage forcé avec les enfants. Il ne faut pas donner la fille qui n'a pas l'âge du garçon. Si l'enfant n'est pas bien traité à la maison, l'enfant ne pourra pas bien travailler à l'école.
Caroline Yao est conseillère sociale au complexe socio-éducatif de Korogou.
Quand on parle des victimes de traite, elles sont en nombre considérable. Et surtout, ce sont elles qui sont porteuses de vie, ce sont elles qui ont les enfants. Et la plupart du temps, quand leurs enfants sont touchés, on se dit qu'elles sont également touchées par ce phénomène.
Protéger les enfants et les femmes sera le fruit d'un long et laborieux processus pour faire tomber les barrières, les préjugés et les traditions qui, parfois, ont la peau dure. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Merci Delphine. Les Américains ont célébré le 4 juillet Independence Day ou la fête de l'indépendance. Cette journée commémore la déclaration d'indépendance des États-Unis vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1776. Elle symbolise aussi la liberté, l'unité et la fierté nationale. Pour certains vétérans américains, cette fête de l'indépendance est spéciale. Ils peuvent la célébrer sur le sol américain dans le cadre d'une initiative de l'administration Biden lancée en 2021 pour aider à rapatrier les vétérans non citoyens qui ont été expulsés après avoir eu des ennuis avec la justice. De Californie, un reportage de Digna Doulo. Le récit est de Michel Joseph.
Laura Meza a servi dans les forces américaines en Irak en 2003. Aux prises avec le syndrome de stress post-traumatique, à son retour, elle s'est tournée vers la consommation de drogue illégale. Arrêtée, elle a été expulsée vers son pays d'origine, le Costa Rica. En ce 4 juillet, elle est de retour aux États-Unis pour la première fois depuis 14 ans dans le cadre de l'initiative de l'administration Biden en faveur des militaires et vétérans immigrés qui permet à certains vétérans expulsés, suite avec des démêlés avec la justice, de revenir aux États-Unis et de recommencer leur vie.
On part à la guerre, on voit des choses auxquelles on ne s'attend pas, on ressent des choses auxquelles on ne s'attend pas. On voit tellement de gens blessés en même temps. C'est une chose de voir une ou deux personnes blessées, mais c'en est une autre de voir des centaines de personnes blessées en même temps. Voir des êtres humains où l'on a l'impression que tout est hors de contrôle. On ne peut rien faire. Et il y a tellement de personnes blessées, qui saignent, qui sont blessées, qui n'ont plus de membres, plus de bras, plus de jambes. Et vous connaissez la vie de ces gens. Et la vie de tout le monde sera affectée à jamais. Après cela, j'ai commencé à me sentir en colère, bouleversée, amère.
Hector Barajas travaille pour une organisation qui aide les vétérans qui ont été expulsés.
Des vétérans ont été expulsés depuis 1996. Cela fait plus de 20 ans et cela concerne 4 administrations. Et c'est la première administration qui a décidé de faire quelque chose.
Barajas a été libéré avec les honneurs après 6 ans dans l'armée américaine et a ensuite été impliqué dans une fusillade qui, selon lui, l'a envoyé en prison pendant 2 ans avant d'être expulsé vers le Mexique.
« Merci Michel. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Lionel Runanira Gahima, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.